Bien, bonsoir à tous. Merci d'être venus encore si nombreux, malgré le froid ou avec le froid, puisque cette salle a toujours un peu des difficultés à nous transmettre sa chaleur. J'espère au moins que mon propos pourra au moins quelque temps faire illusion. Alors aujourd'hui, je vais commencer la deuxième séance de ce séminaire consacré à l'étude du droit de résistance, que j'ai intitulé dans le programme que vous avez eu à disposition « À quel titre peut-on tuer le roi ?». Évidemment, il s'agit là d'un intitulé un peu provocateur et je m'en expliquerai. Je voudrais simplement, dans un premier temps peut-être, revenir un petit peu sur ce que je vous ai raconté la semaine dernière en le présentant peut-être un peu de manière différente. Je crois beaucoup l'art pédagogique de la répétition et des reformulations. Je vous ai expliqué la semaine dernière que la question de la résistance mettait en jeu un dispositif assez complexe qui impliquait un système d'acteurs, les uns ayant pouvoir de commandement, c'est-à-dire le pouvoir d'exercer une contrainte, d'imposer des restrictions aux libertés par exemple, les autres ayant devoir d'obéissance, du moins étant engagés en quelque sorte par leurs paroles dans une alliance, dans un pacte ou dans une convention, je reviendrai sur ces termes aujourd'hui, et étant engagés à respecter les décrets en quelque sorte et les décisions du souverain. D'une certaine manière, ce que j'ai essayé de vous montrer, c'est que résistance et obéissance semblaient aller de pair et indiquaient le caractère dissymétrique d'une relation où l'un, souvent le souverain, détient une force d'imposer, une capacité de contrainte, alors que les autres, du côté du sujet ou des sujets, terme qu'on pourra d'ailleurs, qu'on va retrouver aujourd'hui sous la forme d'un intitulé générique, le peuple, s'engage à reconnaître l'autorité du souverain, à se soumettre. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point sur lequel j'ai insisté beaucoup et qui me paraît important, c'est cette idée que la résistance et l'obéissance impliquent une reconnaissance. Au fond, la question de la résistance, et je vais y revenir aujourd'hui beaucoup, elle se pose comme un problème dès lors que les sujets, le peuple, peu importe ici l'appellation, ceux qui s'engagent au pacte d'obéissance s'estiment déliés de leur obligation morale d'obéissance pour entrer en résistance. Autrement dit, l'acte même de résistance apparaît comme une sorte de rupture dans les faits, rupture dans l'expression du rapport d'obligation qui unit généralement le souverain et ses sujets. Peut-être faut-il encore que je précise ici ce que je veux dire pour bien vous faire comprendre tout à la fois l'intérêt et la difficulté du problème de la résistance. Car ainsi que je l'ai longuement indiqué la semaine dernière, le fait de la résistance apparaît comme une conduite de rupture, comme une attitude qui rompt un équilibre qui engageait réciproquement toutes les parties prenantes. Mais qu'est-ce que ça veut dire ici, rupture? Qu'est-ce qui est précisément rompu? Et comment peut-on, dans ce moment de la rupture, désigner la conduite de résistance? Je pense qu'il faut faire une première remarque, qui est celle-ci, c'est que, si l'on en croit ceux qui entrent en résistance, la raison donnée est la dénonciation d'une injustice. Au fond, du caractère injuste d'une décision, d'une conduite de la part de celui qui exerce le pouvoir de contrainte, décisions, conduites qui sont perçues comme étant injustes. En clair, au commencement, il y a un précédent, une série d'actes, de décisions, un précédent qui, par sa nature, rompt précisément la légalité des rapports entre le souverain et les sujets. C'est parce que le roi, pour revenir à l'exemple de Philippe le Bel que j'ai longuement commenté la semaine dernière, c'est parce que le roi a ordonné sous des prétextes fallacieux, je ne parle pas de Philippe le Bel, excusez-moi, je parle des massacres de la Saint-Barthélemy. Autre exemple que j'ai évoqué la semaine dernière et sur lequel je vais revenir aujourd'hui. C'est parce que le roi, en la personne, la régente Catherine de Médicis, a ordonné sous des prétextes fallacieux les massacres de la Saint-Barthélemy, que les conséquences de ces massacres, qui, je vous le rappelle, interviennent en août 1572, sont réputées funestes, inqualifiables, et que l'on va s'estimer délié de l'obligation morale d'obéir au monarque. Et on verra aujourd'hui que la plupart des théoriciens, des premiers grands théoriciens de la résistance légitime, que sont les monarchomaques, sont tous des protestants, ou essentiellement des protestants. Autrement dit, la transgression d'un ordre, naturel, un ordre cosmique, enveloppe ici l'irruption d'une conduite qui, dans les faits, n'est pas légale, puisque, effectivement, les sujets entrent en résistance, se mettent à désobéir. Donc, du point de vue de la stricte légalité, ces conduites sont véritablement des conduites de rupture. Mais, d'un autre côté, ces conduites se justifient au nom d'un principe plus élevé, qui n'est pas celui du droit positif, qui est lié à la décision du monarque, mais qui est celui de l'invocation d'un droit plus fondamental, moral, d'un principe transcendant. Ainsi, il faut bien comprendre que dans ce cas, la résistance, elle n'est pas simplement une conduite de rupture dans les faits. Par exemple, empiriquement, on peut dire qu'au moment de la Révolution anglaise, le Parlement anglais, dans les années 30, va bien s'opposer aux décisions du roi pour la levée des impôts. Surtout qu'il s'agit d'une levée d'impôts pour financer des campagnes militaires contre le pays d'Écosse et notamment contre l'installation du presbytéranisme. Non, il y a une désobéissance, mais il faut comprendre que c'est aussi une rupture dans le principe. En résistant, en désobéissant, le peuple, les sujets, peu importe ici, font intervenir une norme qui n'est pas celle du droit positif, mais qui est plus générale, plus universelle, qui n'est pas celle de la loi légale, et qui apparaît comme une norme qui va venir sanctionner le caractère posé comme illégitime des décisions du monarque. Autrement dit, et ça me semble très intéressant de le remarquer, je refuse d'obéir au roi, au souverain, au tyran, parce que j'obéis à un principe plus élevé. Parce que j'obéis à quelque chose qui, à mes yeux, ou aux yeux du peuple, du moins aux yeux de ceux qui vont essayer de justifier, de théoriser cette rupture comme étant une rupture légitime, j'obéis à un principe plus élevé, parce que ce principe plus élevé est respectueux de droits fondamentaux, qui sont ceux du peuple, ceux des sujets, ceux de l'homme, ceux du cosmos, ceux de la nature, peu importe ici. Ainsi donc, la conduite de résistance, de désobéissance, est une rupture en ceci qu'elle va faire jouer frontalement deux systèmes de normes. D'un côté, la réalité empirique des sociétés historiques. De l'autre côté, une réalité éthique, morale, transcendante, ou ce qu'on peut appeler un principe de justice, qui va venir fonder en légitimité une conduite de rupture qui s'oppose à la légalité de décision du souverain, mais qui sont deux points de vue de ces principes éminemment injustes. Autrement dit, la conduite de résistance, elle apparaît bien ici comme la confrontation de deux plans de réalité, pour pouvoir l'expliquer et la décrire. Le premier renvoie à la dimension historique, factuelle, empirique, contextuelle, de conduites effectives. Et de l'autre, une réalité d'une autre nature, qui est éthique, morale, transcendante. Autrement dit, pour le dire encore sous une autre forme, le moment de la résistance, c'est celui d'une tension extrême entre ce qui va relever de la légalité, d'une conduite qui est sanctionnée par les règles et les normes qui définissent les conduites dans une société donnée, qui est donc sanctionné par le droit qui existe, ce qu'on appelle aujourd'hui le droit positif, et de l'autre côté, la légitimité, l'égalité d'un côté, légitimité des principes au nom desquels on va justifier sa propre conduite de désobéissance ou de résistance. Autrement dit, ce sont deux systèmes de droit qui vont jouer ici précisément dans le moment de la résistance, un système positif et un système supérieur, universel, qui est celui des principes de ce qu'on appelait encore à l'époque où Alexis de Tocqueville rédigeait ce texte pour lequel il est moins connu mais qui est tout aussi important que de la démocratie en Amérique, c'est l'Ancien Régime et la Révolution, texte dans lequel d'ailleurs il souligne la continuité entre le régime politique de l'Ancien Régime et le Nouveau Régime, si je puis dire. Mais texte dans lequel, justement, il invoque ce principe d'un droit universel, qui sont des droits de l'humanité, c'est un terme qu'on trouvait beaucoup à cette époque-là, hein, pour caractériser justement ce qui, au-delà du droit historique des peuples, dans chacune des sociétés, devait pouvoir fonctionner comme un recours ultime pour pouvoir justifier des conduites qui s'opposaient à des décisions réputées ou jugées injustes, excessive, arbitraire, abusive. Simplement, cette question, telle qu'on la formule ici sur le plan des principes, elle est relativement, non pas simple, mais du moins on peut la délimiter assez clairement. Toute la difficulté, c'est évidemment de passer des principes généraux à la pratique. C'est-à-dire, comment faire concrètement la part entre ce qui est juste et ce qui est injuste. Comment poser empiriquement le fait que je vais rentrer en résistance parce que les actes du souverain sont dits injustes. Autrement dit, sur quelle base je vais pouvoir fonder la justesse de ma propre décision de désobéir? Et est-ce ce que me dicte ma conscience, par exemple? Est-ce que c'est ce que ma conscience va me dire qui, à un moment donné, apparaît comme injuste? Mais on pourra m'objecter, et de très nombreux monarchistes, absolutistes, royalistes, au XVIIe siècle et encore au XVIIIe siècle, disent, mais ma conscience, si ce terme a un sens, elle est victime de préjugés, elle est victime d'idées fausses, de représentations, et à ce titre, je peux me tromper sur moi-même, et je peux me tromper sur ce que me dicte ma conscience. En clair, sur quoi puis-je fonder concrètement ma décision? C'est-à-dire, quelles sont les possibilités empiriquement que je peux avoir de justifier ma conduite de rupture? Qu'est-ce qui va me permettre de dire publiquement, en d'autres termes, que je désobéis ou que je résiste parce qu'il y a un abus manifeste de pouvoir? Autrement dit, sur quoi je vais fonder mon affirmation qu'il y a bien abus? Et vous voyez bien ici que dès qu'on va sortir du raisonnement général, abstrait, théorique, idéaliste, pour entrer dans les questions pratiques, eh bien, le problème est beaucoup plus compliqué qu'il y paraît. Il est beaucoup plus compliqué et certains diront même qu'il est absolument insoluble. C'est la raison pour laquelle, à la fin du XVIIe siècle et surtout au milieu du XVIIIe siècle, ça sera le terme de mon histoire, mais je vous le raconte quand même, comme ça, ça vous donne une idée. Certains penseurs politiques diront, mais la question, c'est pas la question du droit légitime de la résistance. La question, c'est de constater qu'il y a eu des phénomènes de résistance, des faits empiriques. Et c'est à partir de ces faits qu'il faut essayer de comprendre pourquoi et comment on a pu, à certains moments, entrer en résistance et pourquoi, à d'autres moments, cela n'a pas été possible. Donc, voyez ici comment, finalement, le problème est quand même relativement difficile parce qu'on peut éventuellement formuler une dimension assez générale et théorique. Dès lors qu'on s'intéresse aux conduites pratiques, eh bien, là aussi, le principe théorique est relativement inefficient. Alors, juste pour continuer à illustrer ce caractère complexe du problème de la résistance, je voudrais juste ajouter quelques éléments qui me semble aller dans ce sens. Premier élément. Depuis l'Ancien Régime, si je me limite au cas français, mais je pense qu'on pourrait étendre ce raisonnement à d'autres pays, hein, le droit de résistance, c'est-à-dire l'idée qu'il puisse être légitime et légal de résister, plutôt légal, le droit de résistance n'a jamais fait l'objet d'une juridicisation. C'est-à-dire que la question de la conduite de rupture ainsi formulée n'est pas intégrée dans le droit positif. Tout simplement parce que la tension qui oppose le caractère légal d'un côté et le problème de la légitimité de l'autre est à son comble. Résister ne relève pas du droit positif. Mais en même temps, justifier que l'on résiste suppose que l'on constate une infraction, une transgression de la règle. Ça, c'est le premier fait qui vient s'ajouter à la complexité du problème. Le deuxième fait troublant, dans le dernier quart du XXe siècle, par exemple, et là je fais un petit lien avec l'actualité, entre guillemets, les grands procès, Eichmann, Barbie, les grands procès qui portent sur les anciens hauts dignitaires nazis, quelle est la question qui a fini par toujours être posée dans ces procès? C'est celle du devoir de désobéissance. Et comme vous le savez, nombre de stratégies de défense ont reposé sur l'idée d'un devoir d'obéissance. C'est précisément la stratégie d'Eichmann, c'est aussi d'une certaine manière celle de Barbie. Symétriquement, à cette justification par le devoir d'obéissance, ces procès mettent en évidence le caractère extrêmement difficile de la délimitation des principes pratiques à partir desquels un devoir de désobéissance peut être mis en application. Certes, très souvent dans la défense ou plus exactement dans l'accusation on fait apparaître l'idée qu'il aurait fallu désobéir, mais ce point de vue de l'accusation consiste finalement dans la justification du devoir de désobéissance. Mais comment fonder pratiquement l'exigence de la désobéissance? Certes, là aussi, après coup, on peut observer qu'il était, entre guillemets, évident de désobéir à l'État nazi, mais toute la question, c'est évidemment, là encore une fois, de passer du principe de la justification générale à l'analyse factuelle de la conduite empirique de désobéissance. Et on voit bien ici que la question du droit de résistance, comme la question du devoir de désobéissance, elle se situe très précisément à l'intersection du juridique d'un côté et du politique de l'autre. Et qu'il est très difficile de poser en termes pratiques des règles claires et évidentes qui vont nous permettre de passer de l'un à l'autre. Ce qui, à mon avis, me permet de justifier le fait que on peut isoler deux plans d'analyse de la question de la résistance. Et vous allez voir que je choisis la voie de la facilité. Celle empirique qui consiste effectivement à proposer des descriptions historiques et à tenter d'expliquer par des modèles les raisons et les intentions de la résistance ou de la contestation, si on admet de classer dans cette famille un peu plus large des conduites d'opposition à des autorités constituées. Ça, c'est la voie royale, c'est la voie la plus difficile, c'est la voie la plus riche, parce que justement, elle est en contact direct avec la matérialité des conduites et des circonstances. On peut aussi s'intéresser à un autre aspect de la question de la résistance qui consiste, puisque je l'ai beaucoup indiqué, je viens de le rappeler, je l'ai aussi beaucoup expliqué la semaine dernière, qui consiste à indiquer que on peut s'intéresser aux énoncés de justification de la résistance. D'une certaine manière, comment, du point de vue de la théorie politique, du point de vue de la pensée politique, les auteurs, les interlocuteurs, qui sont souvent parfois des acteurs politiques, ont essayé de donner des arguments pour justifier le fait de résister ou de désobéir. Et c'est évidemment cet aspect-là que je vais retenir maintenant dans mon propos, et qui consiste à essayer de refaire quelques étapes de cette histoire des justifications théoriques et politiques de ce qu'on pourrait appeler, sinon un devoir de désobéissance, du moins le droit à entrer en résistance. Même si, je le rappelle encore, le passage de la discussion générale à la justification pratique est extrêmement compliqué. Donc j'en viens maintenant, une fois que j'ai caractérisé mon problème, alors je rappelle, donc ce qui m'importe ici, c'est que la conduite de rupture, elle fait se confronter deux dimensions de la réalité, celle de l'espace juridique de la règle et celle de l'espace politique de la justification d'une règle qui n'est pas encore positive mais qui pourrait le devenir. Donc maintenant je vais en venir à une première grande étape dans mon histoire, en tout cas celle qui me retiendra ici, des théories de la résistance, du droit de résistance plus précisément. C'est ce que j'appelle les lectures monarchomaques de la résistance au siècle des guerres de religion. Littéralement, ce terme de monarchomaque veut dire ceux qui combattent le gouvernement d'un seul. Les grands représentants de cette pensée se situent au XVIe siècle, et ça n'est pas tout à fait un hasard si c'est pendant la période de la réforme, de la contre-réforme, des guerres de religion, que cette pensée va connaître un essor remarquable. En France, les monarchomaques, en France et ailleurs, les monarchomaques sont d'abord des protestants. Alors, un exemple, le juriste, ce sont des protestants, ce sont des intellectuels. Ce sont des intellectuels ou des clercs, plus précisément. Il y a le juriste François Hotman, H-O-T-M-A-N, qui va publier à Genève, parce qu'il ne peut pas le faire en France, en 1573, c'est-à-dire un an après les massacres de la Saint-Barthélemy, un texte intitulé « Franco-Gallia ». En 1574, un autre clerc théologien, Théodore de Bèze, publie un texte dont le titre est remarquablement explicite, « Du droit des magistrats sur leur sujet ». Du droit des magistrats sur leur sujet. Texte qui est publié pour la première fois à Genève également en 1574. En 1579, soit 5 ans plus tard, paraît cette fois-ci de manière anonyme un autre texte qui est publié sous le titre « Vengeance contre le tyran ». L'auteur, ou le pseudonyme de l'auteur, est Brutus, et il s'agit vraisemblablement, en tout cas c'est ce que les historiens et les commentateurs indiquent, il s'agit vraisemblablement d'un certain Philippe Duplessis-Mornay, qui était un conseiller du roi Henri IV, qui avant de s'être converti au catholicisme était bien évidemment un parpaillot. Alors plusieurs remarques ici, avant de rentrer dans les détails. D'abord, soulignons, et j'attire votre attention là-dessus, l'importance de la période. C'est autour du paroxysme des guerres de religion que ces thèses vont se développer, qu'elles vont devenir publiques. Et ces thèses sont majoritairement, massivement émises, conçues, élaborées par des protestants, Et ce qui est au cœur de leurs préoccupations, c'est la nécessité de redéfinir une forme de limite légitime à ce qui est vécu par la plupart, en tout cas d'entre eux, les protestants, comme un abus du souverain. Ça, c'est la première remarque. La deuxième remarque, me semble-t-il, qui est tout aussi importante, c'est de souligner que les titres de ces ouvrages sont eux-mêmes très explicites. Parler du droit des magistrats sur leur sujet, c'est admettre que ce droit n'a plus un caractère d'évidence. Et en raison de ce caractère perdu de l'évidence, il importe d'en redéfinir les contours. Comme si finalement les épisodes de guerre n'avaient eu de cesse que de manifester les transgressions permanentes de ces limites. Et Brutus est encore plus radical puisque lui, il invoque directement la nécessité de se venger du tyran et il va jusqu'à envisager la possibilité de le tuer. Quoi qu'il en soit, dans tous ces cas, les abus, les misères du peuple semblent justifier, aux yeux de ces auteurs, l'importance d'une réflexion nouvelle qui va constituer une des grandes étapes dans l'histoire des théories du droit de résistance. Et c'est la raison pour laquelle, évidemment, je me permets d'y insister. Alors maintenant, ce que je voudrais évoquer devant vous, c'est de quelle manière ces auteurs vont théoriser la légitimité d'un certain droit du peuple, ou des sujets, ou de ses représentants, à s'opposer au monarque. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails de chacune des thèses, parce que une histoire fine permettrait de montrer que vous avez des élaborations qui sont extrêmement nuancées. Ce qui va me retenir ici, c'est plutôt un certain nombre de principes généraux. Cependant, avant de le faire, je voudrais encore faire une remarque de contexte. Le XVIe siècle est un siècle où, dans les faits, quand on s'intéresse un petit peu à l'histoire politique et à l'histoire matérielle de cette période, les rapports entre la politique et la religion se montrent dans leur plus grande brutalité. Je rappelle qu'en Italie, l'Italie est ravagée par 30 années de guerre qui vont ruiner le pays, hein, que l'Italie c'est le pays qui a supposément inventé la Renaissance. Je rappelle qu'en France, l'exacerbation des passions religieuses engendre des troubles politiques d'une violence inouïe de date. En Italie, le sac de Rome en 1527. La Saint-Barthélemy en 1572, Charles IX et Catherine de Médicis. Tout ceci montre que l'action politique, lorsqu'elle est débarrassée de toute sa tutelle traditionnelle, morale, éthique, semble ne plus obéir qu'à une seule règle, qui est celle de la tactique et de la stratégie. Et c'est d'ailleurs précisément en prenant acte de la brutalité des faits politiques que Machiavel écrira dans son Prince, notamment dans le chapitre 18, que la politique judicieuse consiste très précisément à ne pas tenir ses promesses lorsque les raisons qui les ont fondées n'ont plus lieu ou ne sont plus là. Alors, derrière ces formes historiques et théoriques de remise en cause des limites dans la pratique politique, se situe tout un contexte de réflexion qui, au XVIe siècle, notamment chez les monarchomaques, mais pas seulement, et on faudrait rentrer beaucoup plus dans le détail, ce que je ne ferai pas ici, vont essayer de redonner une certaine prise à une dimension morale et une dimension théologique, le mot est lâché, à la justification des actes du souverain. En clair, contre ce déferlement et ce déchaînement de violence, il va s'agir de donner prise à de nouvelles limites que l'on pourrait imposer au souverain pour réorienter le sens de son action. Plusieurs éléments vont servir dans ce cadre. J'en évoque ici quelques-uns. Tout d'abord, je rappelle un fait qui est important, c'est que depuis la fin du IXe siècle, et cela jusqu'au XVe siècle, le roi n'a sa légitimité que lorsqu'il est sacré. Autrement dit, l'assise des monarchies occidentales se trouve fondée littéralement sur un acte tout à fait décisif, public, qui engage l'Église tout autant que le roi, et qui est un serment. Un serment qui est prononcé à l'occasion du sacre, et qui met en jeu, là pour le coup, l'Église, qu'il faut défendre dans ses titres et dans ses biens, mais aussi la protection et la sécurité des sujets. On peut dire que de manière presque générale, le serment prêté par le roi revenait à affirmer, mais aussi à limiter la souveraineté du monarque. Et c'est en partie un travail de reprise de la signification politique et théologique du sacre royal qui va permettre au monarchomaque d'élaborer une nouvelle justification possible de la désobéissance. Toujours dans la présentation un petit peu du cadre général, je dois dire que les deux auteurs qui sont les plus significatifs de ce point de vue-là, Théodore de Bèze et Brutus, ont dans leur texte une dénonciation extrêmement vive des abus du pouvoir monarchique. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle ces deux auteurs reviennent d'une manière extrêmement intéressante sur la genèse de l'acte d'obéissance au souverain. Qu'est-ce qui, au moment du sacre, engage le roi, les sujets et, évidemment, comme on va le voir, Dieu. Alors, ce qui est intéressant, mais là aussi, je ne ferai que le survoler, le styliser, c'est que dans la manière de reconstruire la logique du serment qui va engager le roi et son peuple, eh bien, on va voir se dessiner ce qui doit être respecté de part et d'autre et qui, s'il ne l'est pas, va donner la possibilité d'entrer en résistance. Attention, il s'agit ici de justifier la possibilité de la résistance. Et il faut bien distinguer ici le fait de distinguer la possibilité de résistance et le fait de résistance en tant que tel. D'ailleurs, à ce propos, ni Théodore de Bèze, ni Brutus n'envisagent explicitement de remettre en cause, de remettre en question l'autorité royale. Il ne s'agit pas de renverser définitivement les valeurs et ce sur quoi se fonde l'institution du roi. Il s'agit simplement de questionner les conditions de l'obéissance à l'autorité du monarque. À quelles conditions il est possible, non pas de s'y opposer pour le renverser, mais de le ramener, en quelque sorte, par l'acte même de résistance, à récipiscence. Alors, les limites de ce pouvoir royal, les limites que le pouvoir royal doit lui aussi respecter, auraient été données pour ses auteurs dans un modèle qui est celui de la double alliance. Et le terme ici est emprunté directement à la Bible. Double alliance qui, d'un côté, implique Dieu. Dieu qui est lié à son peuple. Confère la question de l'ancienne et de la nouvelle alliance. Et ensuite, de l'autre côté, puisque ces auteurs parlent d'une double alliance, le roi et son peuple. Qu'est-ce qu'il faut ici entendre par alliance ? Par alliance, on peut comprendre une forme d'engagement réciproque du peuple et du roi vis-à-vis de Dieu, bien sûr, mais aussi, comme on va le voir, du peuple vis-à-vis de Dieu. Autrement dit, dans la première justification de la possible résistance à l'égard de l'autorité arbitraire du souverain, on a ici une transposition. Et quand on lit les textes, c'est d'ailleurs tout à fait intéressant, c'est pas tout à fait le hasard si c'est Théodore de Bèze qui le formalise, on a affaire à une transposition quasi directe entre le vocabulaire de l'alliance et du serment tel qu'on peut le trouver dans la Bible, notamment dans les écrits de l'Ancien Testament, et la notion de serment telle qu'on va la retrouver dans le moment qui va engager le roi vis-à-vis du peuple et de ses sujets. Alors, cette transposition, elle va permettre à ses auteurs de poser une double obligation. Le roi serait le vassal de Dieu. Il serait donc investi par Dieu du pouvoir du glaive, et il doit faire usage de ce pouvoir du glaive pour maintenir la justice sur terre. De la même façon que dans le droit féodal, le vassal est également celui qui passe un serment avec son suzerain et en échange de la protection du suzerain, il contracte des obligations à l'égard de ce suzerain. Autrement dit, dans le serment féodal qui va unir le vassal et le suzerain, il y a un jeu d'obligations réciproques, d'engagements réciproques. Et ce qui est intéressant ici dans le cas d'espèce, c'est que justement, ces auteurs vont faire une comparaison entre le modèle de l'alliance tel qu'il emprunte à la théologie vétérotestamentaire et le modèle du serment féodal tel qu'il l'emprunte là au droit coutumier du Moyen-Âge. Tout ceci pour dire quoi ? Tout ceci pour dire que il y a un engagement réciproque et que le roi, en passant le serment du sacre, s'engage lui aussi à respecter une parole donnée. Donc le cadre du sacre et du serment royal fait que le souverain, celui qui va devenir roi pleinement légitime puisqu'il aura reçu le sacre qui le consacre, si je puis dire, il s'engage à respecter une parole à l'égard de son peuple. Autrement dit, pour ses auteurs, le serment du sacre royal est clairement un contrat. Alors, évidemment, il s'agit d'un contrat d'un type particulier, mais il s'agit d'un contrat tout de même, en ceci précisément, qu'il engage tous les parties qui sont concernées à respecter un certain nombre de principes. Autrement dit, conclusion, mais je vais y revenir, pour ces auteurs, le serment du sacre royal énonce très clairement les limites à l'intérieur duquel le pouvoir monarchique doit pouvoir s'exercer pleinement et légitimement. Alors, la conclusion, elle s'impose d'elle-même. Et vous voyez pourquoi elle a été autant contestée. Elle s'impose en ceci précisément que l'acte transgressif qui émane du roi, c'est-à-dire l'acte qui fait violence en quelque sorte aux principes qui ont délimité le cadre à l'intérieur duquel il doit exercer sa prérogative, eh bien, à partir du moment où cet acte advient, le peuple peut se sentir délié de sa propre parole, de sa propre promesse d'obéissance. Alors, peut-être ici quelques remarques pour essayer de comprendre un peu comment le problème est posé par ces auteurs. D'abord, première remarque, c'est que la justification par les monarchomaques de la possible désobéissance, elle est le résultat d'une série d'engagements réciproques qui vont impliquer le peuple, le roi et Dieu. Autrement dit, le système, pour reprendre l'expression que j'avais utilisée la semaine dernière, est un système à trois pôles. Vous avez Dieu, mais Dieu, il ne parle pas directement. Même en s'adressant à Moïse, parfois le contenu de sa parole est énigmatique et demande une interprétation. Caractérisation de la prophétie, c'est très précisément cette aptitude à interpréter une parole qui ne se dit pas directement et qui fait médiation entre le peuple et la divinité. Donc ici, ce premier terme et ce troisième terme, qu'est Dieu, eh bien, il ne s'exprime pas directement. Ce qui veut donc dire qu'on va interpréter ce qu'il est supposé avoir dit. Et qui sont les interprètes? C'est l'autorité de l'Église. Et d'ailleurs, au passage, je rappelle quand même que le sacre implique la présence des hauts dignitaires de l'Église. Quand ça n'est pas le pape, c'est son plus grand représentant, ne serait-ce que parce que c'est l'onction qui va ici achever de donner la légitimité, la force d'obligation du serment. Donc Dieu est le premier terme. Dieu qui n'est pas directement un acteur qui s'exprime, si je puis dire, mais dont on va faire parler les textes et les propos. Ça, c'est le premier pôle. Ce qui me permet, juste une petite parenthèse, oui, parce que c'est quand même important, c'est que, justement, il est intéressant de constater ce qui met... Bon, c'est un autre débat que j'évoque comme ça en passant, mais il est intéressant de constater que les théologiens et les protestants vont s'appuyer justement sur la lecture théologique du sacre royal pour défendre la possibilité de désobéir. C'est-à-dire que c'est à l'intérieur même du langage de la théologie que la justification de la résistance va se construire dans les premières théories, en tout cas des monarchomaques. Donc, l'émergence de la modernité, pour revenir sur un thème que j'avais eu l'occasion de développer dans d'autres cours, ici devant vous, c'est pas la séparation du religieux et du politique, c'est des élaborations qui se font également à l'intérieur même du religieux. Et ici, on en a un exemple tout à fait remarquable, c'est qu'effectivement, la première des grandes justifications de la possible désobéissance ou du droit légitime de résister, elle se fait en utilisant, alors certes de manière très particulière, les textes sacrés. Donc, premier pôle, Dieu. Dieu qui ne parle pas, mais dont on va interpréter la parole et qui va impliquer l'autorité de l'Église. Ensuite, il y a le roi. Le roi qui va détenir son pouvoir de Dieu et qui va le détenir à la manière du vassal qui détient son fief, qui détient sa propre autorité. C'est-à-dire, il détient cette autorité de Dieu, le roi, mais en échange, il promet obéissance. Il y a donc une première alliance. Et cette alliance est peut-être la plus importante, celle qui unit le roi à son Dieu, à Dieu. Deuxième alliance, c'est celle qui va réunir ou relier le peuple et le roi. Le peuple s'engage, s'oblige à obéir en échange de la sûreté et de la justice. Je cite bien, en échange de la sûreté et de la justice. Ce qui veut donc dire que l'exercice de la souveraine puissance, de la puissance du roi, ne peut pas être arbitraire. Elle ne peut pas être arbitraire, elle peut être absolue, mais pas arbitraire. Le roi a tout pouvoir sur ses sujets, mais il faut que l'exercice de cette puissance ait une contrepartie, la justice et la sûreté. Dès lors que ses fins, au sens de la finalité, de l'objectif, ne sont plus respectées, alors le peuple se trouve délié et il va pouvoir désobéir. Alors, ici, autre précision nécessaire, quand on parle du peuple, ce n'est pas le peuple au sens où on l'entend aujourd'hui. Surtout, bien comprendre que dans la parole des monarchomaques, le peuple, ce sont les bourgeois et les aristocrates, et les clercs, ceux qui représentent, et ceux qui sont représentés dans les états généraux, par exemple. Donc, on voit bien ici que dans ce système à trois pôles, vous avez une double alliance, l'une essentielle, théologico-politique, si je puis dire, qui relie le roi et Dieu, l'autre qui relie le roi et son peuple. Et c'est évidemment dans cette chaîne d'implication réciproque que les monarchomaques vont justifier l'idée qu'il puisse y avoir une rupture, une transgression de cette alliance, et donc, eh bien, la résistance comme une sorte de punition, ou comme ce qui permet d'indiquer que les pactes, ou les termes même du pacte, n'ont pas été respectés. Donc, dans ce système à trois pôles, le peuple, entre guillemets, hein, je vous rappelle la prudence dans l'utilisation de ce terme, eh bien, un des termes du pacte, et ça, c'est un coup de force absolument génial des monarchomaques, que d'avoir dans une réinterprétation théologique du serment d'alliance intégré un nouvel acteur, le peuple. Peu importe que ce peuple soit simplement les figures de la représentation de la noblesse, d'épée, de la noblesse, d'écriture, ou peu importe, irruption d'un troisième terme, et d'ailleurs, Jean Bodin, le grand théoricien de la souveraineté absolue, qui écrit dans la période exactement contemporaine de ces monarques, ces dates, c'est 1529-1596, un livre absolument fondamental qui s'appelle « Les six livres de la République », et bien très précisément, Jean Bodin va contester avec force cette justification théologico-politique de la possible désobéissance. Et voilà ce qu'il va essayer de justifier, c'est que la souveraineté du roi est absolue et que, en tant qu'elle est absolue, cette souveraineté ne peut absolument pas souffrir aucune limitation. Autrement dit, on ne peut pas résister à la décision du souverain, même si cette décision est absolument injuste. On voit bien ici que ce qui est au cœur de la discussion, c'est la possible théorisation d'une limite, et que ce qui fait, à mes yeux, le caractère assez révolutionnaire, quoi qu'on en dise, au sens novateur de ces théoriciens monarchomaques, eh bien, c'est que tout simplement, ils sont en train de mettre en place, hein, faisons un peu de rétrospection, hein, laissons-nous porter par l'anachronisme, ils mettent en place, justement, hein, l'irruption de ce nouvel acteur fondamental qui n'a pas encore son mot à dire, hein, et qui ne pourra parler que par procuration, mais qui est, pour le coup, un des acteurs à partir desquels on va pouvoir penser la transgression des engagements du roi. Donc, vous voyez bien ici que Ce qui va permettre de justifier la résistance ou la désobéissance, c'est précisément ce que va contester les théoriciens de la monarchie absolue. Alors, Jean Bodin est celui qui, en France, évidemment, est le plus caractéristique de cette manière de penser la théorie de la souveraineté absolue, mais on en trouve d'autres, hein. D'ailleurs, j'ai parlé l'an dernier à propos d'une toute autre question de Filmer en Angleterre, hein, ce théoricien du pouvoir patriarcal, qui lui aussi pense le caractère absolu de la souveraineté sur le modèle de la relation père-enfant. Donc, ces théoriciens de l'absolutisme, ils existent, et on voit bien comment se dessine dans l'espace ici de la controverse entre les monarchomaques et les théoriciens de la souveraineté absolue, quelque chose comme une dissension, un dissensus très fort, hein, autour de cette idée qu'il est possible de penser la limite. Non seulement il est possible de la penser, mais qu'elle va justifier des conduites qui sont évidemment pour les absolutistes et les monarchistes absolument inqualifiables. Ce qui finalement apparaît derrière ces premières grandes thèses des monarchomaques, c'est donc une double émergence. D'un côté, on reconnaît que le pouvoir du roi se justifie parce qu'il doit réaliser des fins. Autrement dit, le roi s'engage dans l'exercice de sa prérogative à maintenir des équilibres, à maintenir un ordre, une harmonie, hein, qui va être pensée différemment selon les lieux. Je pense par exemple dans toute la conception élisabéthaine de l'harmonie de la communauté et du cosmos, qui est d'ailleurs pensée sur le modèle de l'harmonie musicale, hein, qui est tout à fait passionnante, et qui veut que le roi ne peut pas faire n'importe quoi, parce que il a une vocation terrestre à accomplir une partie du dessein divin. Et que cette vocation l'implique et l'oblige à la fois moralement et pratiquement. Donc le roi ne peut pas exercer sa puissance de façon arbitraire. Et c'est très précisément ce respect des fins et des moyens qui engage en quelque sorte la parole du roi. Cette justification théologique, elle va servir de mode de légitimation, plus radicalement ici, de la contestation possible du monarque. Autrement dit, sous la forme du sacre et du serment de sacre, se trouve justifié, et c'est la deuxième émergence que je voulais mettre en évidence, l'existence d'une co-responsabilité du peuple et du roi devant Dieu. Et ça, c'est très précisément ce qui est inacceptable pour les absolutistes. Au fond, l'innovation théorique tout à fait remarquable des monarchomaques, c'est cette mise à égalité, au moins implicite, devant Dieu, du roi et de son peuple. Ce qui veut dire que le peuple n'est pas lié au roi par l'unique devoir d'obéissance. Alors pour terminer sur cet exposé déjà bien long, je voudrais faire quelques remarques de conclusion. Il me semble que cette première étape des monarchomaques a ceci d'intéressant pour mon problème, et qu'elle pose le principe général de l'obéissance et de la résistance. Autrement dit, pour ces premiers grands théoriciens du droit de résistance, l'obéissance devient conditionnelle. Et qu'est-ce que ça veut dire qu'elle est conditionnelle ? Eh bien, cela veut dire qu'elle n'est pas absolue. Et cela veut dire que le roi a des devoirs envers Dieu et envers son peuple. Deuxième remarque sur l'intérêt de ces théoriciens, c'est que ces devoirs, pour les identifier, pour savoir quels ils sont, il faut aller regarder du côté de ce qui justifie la finalité du mandat royal. Or, le mandat royal, c'est d'assurer la prospérité et la justice. C'est de permettre au sujet de vivre en sûreté et dans l'harmonie. C'est de respecter un équilibre qui peut être pensé sur le modèle du cosmos, sur le modèle de l'harmonie, peu importe. Mais c'est l'idée qu'il y a une sorte d'équilibre que le roi ne peut pas détruire par l'utilisation arbitraire de sa puissance ou de ses prérogatives. C'est donc l'idée qu'il va falloir, et ça c'est important pour la suite, expliciter ses fins, dire quelles elles sont, dans les termes d'un discours qui engage toutes les parties prenantes de notre système. Autrement dit, ce qui est ici important, c'est qu'à travers cette première grande justification de la possibilité d'une résistance, eh bien ces auteurs manifestent ce qui jusque-là ne se posait même pas comme un problème et qui devient un problème, c'est de comprendre quelles sont les fins qui justifient l'exercice de la souveraineté. Quelles sont ces fins? Et à partir du moment où vous posez la question, c'est que vous reconnaissez au moins implicitement que la réponse n'est pas évidente. Et que non seulement la réponse n'est pas évidente, mais qu'elle va engager des controverses, des conflits d'interprétation, qui sont évidemment ce qui peut intéresser l'histoire de la pensée, l'historien de la pensée. Juste encore une ou deux remarques. Ces fins, au sens du dessein, de l'objectif, du but que doit remplir l'exercice du mandat royal, c'est ce qu'on va bientôt désigner à travers tout un vocabulaire qui va être important au XVIIe et au XVIIIe siècle, qui est celui de l'ordre naturel. L'ordre naturel. Ce vocabulaire qui consiste à emprunter ici l'idée qu'il existe un ordre naturel, comme une nature, c'est évidemment à prendre avec énormément de précautions parce que cet ordre naturel, il va falloir justement le décrire. Et c'est comme pour faire parler Dieu. Qui est-ce qui dit la parole de Dieu? Ce sont des humains. Donc tout le problème va être évidemment de comprendre ce à quoi il renvoie, et on peut dire que toute une partie de l'histoire politique moderne, de l'histoire de la pensée politique moderne, pardon, va se cristalliser autour de cette interprétation de ce qu'on va appeler la loi de nature. La loi de nature. Dans le vocabulaire de Locke, la loi de nature, c'est l'expression du dessein divin. Mais une fois qu'on a dit ça, on n'a pas tout dit encore, parce qu'il faut savoir comment on peut la comprendre, cette loi de nature. Et qu'est-ce qui nous permet d'interpréter le contenu? Bref. En quoi consiste précisément le droit de résistance? Eh bien, très précisément ici, voilà le problème posé. Il n'est pas réglé, il est posé simplement. Et il est posé parce que ce qui, à l'époque des théologiens et à l'époque des monarchomaques, s'exprime encore dans le langage sacré, dans le langage de la théologie, va progressivement s'exprimer dans le langage de la raison. Une partie de l'histoire, et c'est la raison pour laquelle j'ai choisi de vous parler de ces auteurs, mais une partie de l'histoire des théories du droit de résistance, ça va être progressivement de comprendre comment on passe d'une justification de la possible désobéissance dans les termes d'un langage théologique à une justification dans les termes d'un langage rationnel, qui est celui des hommes, et non plus celui de Dieu. Bon, ben, je crois que je vais m'arrêter là, pour aujourd'hui. Je vous remercie.